Le message que vous allez suivre est un enseignement du révérend Raoul Wafo. Recevez cette parole avec foi, elle transformera votre mentalité et affectera votre destinée.
Amen. Prenons nos Bibles ensemble, s'il vous plaît. Restons debout avec nos Bibles. Nous allons tourner nos Bibles en 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Ce soir, il me plaira d'enseigner sur ne pas travailler en vain. Ne pas travailler en vain. En quelque sorte, ce message aidera chacun d'entre nous à obtenir la plénitude des récompenses divines. Amen. Afin de ne pas travailler en vain. Ou si tu veux, tu choisis plutôt le thème « Obtenir la plénitude des récompenses divines ». 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8, nous y sommes. On y va calmement, verset après verset. 1, 2, 3. « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'en fait point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, que ton nom soit exalté. Père, je prie au Dieu qu'à chacun d'entre nous, au son de ma voix, soit accordé par ta grâce infinie la capacité d'entendre et de comprendre ta parole. Père, viens, ô Dieu, dans nos cœurs faire la chirurgie indispensable éternelle afin que nous soyons dépouillés de tout ce qui n'est pas tien et que nous puissions, ô Dieu, couler selon le sentiment que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, nous voulons marcher par l'amour. Nous ne voulons pas passer à côté des récompenses que le ciel nous a réservées. Nous ne voulons pas travailler en vain. Nous voulons marcher selon le modèle que Christ nous a montré et inspiré. Que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, Seigneur, en ce jour. Je mets une attente singulière au devant de ton trône. Merci pour le revêtement de ta grâce, pour la capacité de dispenser ta parole et de communiquer ta pensée suprême. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen trois fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La motivation de l'action de Dieu était l'amour, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est parce qu'il a aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si Dieu n'avait pas d'amour, il n'aurait pas donné. Il a donné parce qu'il a aimé. Et la Bible dit dans Jean 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, Jésus, en allant à la croix, en donnant sa vie pour ses amis, en donnant sa vie pour toi et moi, agissait aussi par l'amour. Jésus a été offert par amour et Jésus s'est offert par amour. Donc, Dieu le Père a agi par amour, Dieu le Fils s'est donné par amour. Et donc, vous et moi, nous sommes condamnés à marcher dans l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu devra être pour chacun d'entre nous la motivation de chacune de nos actions sous le soleil. Vous savez, ce ne sont pas toutes les actions que nous posons au nom de Dieu qui sont comptabilisées par Dieu et acceptées devant Dieu comme étant une action, n'est-ce pas, qui est profitable en son nom et à son royaume. La Bible dit que quand je parlerai la langue des hommes, c'est-à-dire celle que je parle actuellement, et des anges, Roboko, Shikerende et Keboho, la Bible dit, si je fais ça et que je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que je suis? Je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. En quelque sorte, ce que je suis en train de faire, c'est simplement du bruit. Mais que derrière, il n'y a pas de substance. Que Dieu t'aide à ne pas faire simplement du bruit. D'accord? Et la Bible va plus loin. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En quelque sorte, ce qui fait de nous quelqu'un aux yeux de Dieu, ce ne sont pas simplement nos actions, mais d'abord la motivation qu'il y a derrière les actions que nous posons. Donc, je peux être utilisé par Dieu, prophétiser, guérir les malades, ressusciter les morts. La Bible dit, si je fais toutes ces choses, mais que derrière, l'amour n'est pas le fondement, la motivation de mes actions, alors la Bible dit, je ne suis rien. Ça, c'est fort. Les hommes peuvent dire, ah, il est un puissant prédicateur. Les gens peuvent dire, ah, c'est une grande femme d'affaires. Mais la Bible dit que aussi longtemps que derrière tes actions, il y a absence d'amour comme étant la fondation de ta motivation, Dieu considère que tu n'es rien. En quelque sorte, devant sa face, tu n'existes même pas avec tout ce que tu es en train de faire. Donc, nous devons faire attention de ne pas travailler en vain sous le soleil. Parce que si Dieu dit que nous ne sommes rien dans ce que nous faisons, ça veut dire qu'il ne récompensera pas nos efforts. Parce que si Dieu n'approuve pas tes actions, il ne les récompensera jamais. Car Dieu ne récompense que les actions qu'il approuve. Et vous vous rendez compte donc qu'il y a des personnes qui prient 5 heures par jour, 7 heures par jour, 10 heures par jour, qui jeûnent 80 jours, 120 jours par an. Mais la Bible dit que si derrière tout ça, l'amour n'est pas la base, ce que tu es en train de faire n'est pas considéré au devant du trône de Dieu. Donc nous devons faire attention. Très attention. Parce que le verset 3 dit, et quand je distribuerai même tous mes biens jusqu'à pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent poser des actions sociales, pas parce qu'ils aiment, mais parce qu'ils s'aiment? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent donner à l'église, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils aiment ce qu'on dise d'eux? Donc, si même je paye ma portion d'alliance, j'apporte ma portion d'alliance, je sacrifie en offrande, je donne l'argent pour aller dans les orphelinats, la Bible dit, si derrière toutes mes actions, Dieu ne voit pas l'amour comme étant la motivation de ce que je fais, il dit, ces actions sont invalidées au devant du trône de Dieu. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, j'ai souvent dit qu'on peut avoir 1 million d'offrandes le dimanche et le ciel considère qu'on a eu 100 000 francs d'offrandes le dimanche. Parce que tout ce qui est comptabilisé par la caisse de l'église n'est pas comptabilisé par la caisse du ciel. N'oubliez jamais que les actions qui sont acceptées par les hommes ne sont pas toutes acceptées par Dieu. Et la Bible dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Très-Haut. Donc Dieu veut que dans tout ce que nous faisons, que l'amour soit vraiment la fondation, la motivation de nos actions. L'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alors, nous allons aller en profondeur. Et chacun d'entre nous va examiner pour voir si vraiment l'amour de Dieu, nous l'avons en nous ou pas. Vous savez, Dieu est tellement intelligent et sage qu'il a bien choisi de ne pas être visible tous les jours, n'est-ce pas, lui-même au-devant de nos yeux physiques. Mais il s'est rendu visible au travers de chaque être humain que nous croisons et rencontrons sur nos chemins. Car n'oublions pas que l'homme a été créé à son image selon sa ressemblance. Donc chaque jour que je rencontre un homme ou une femme, je suis en train de croiser l'expression visible de Dieu au-devant de mes propres yeux. C'est pourquoi l'apôtre Jean, je vous encourage à lire les épîtres de Jean, qui était celui qui s'appelle lui-même le disciple que Jésus aimait, qui n'a écrit avec tellement de révélations sur l'amour, dira ceci dans 1 Jean 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », 1 Jean 4, 20 à 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, ce que la Bible dit. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez? Et il dit, celui qui... Il continue en disant, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, notre amour pour Dieu est démontré, prouvé par notre amour pour notre semblable, notre frère. Donc, Marie, si tu n'aimes pas ta femme parce que c'est ta femme, aime-la quand même parce que c'est ta sœur. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Laisse-moi parler maintenant à ta femme. Femme, si tu n'aimes pas ton mari parce que c'est ton mari, aime-le quand même parce que c'est ton frère en Christ. Parce que la personne que tu côtoies tous les jours est l'expression visible de Dieu à tes côtés. Et en fait, ça devient l'autel visible de Dieu sur lequel Dieu veut que tu déposes ton sacrifice d'amour. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ça veut dire, Dieu dit, tu dis que tu m'aimes, oui. Alors je t'envoie, n'est-ce pas, un autel en face de toi. Dépose ton sacrifice d'amour sur cet autel. Et cet autel, c'est ton prochain, c'est ton semblable. Vous voyez? Donc, si j'aime Dieu, je devrais aimer mon semblable. Je devrais aimer mon prochain. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie, il est facile, quand vous êtes spirituel, de détecter en vous-même d'abord et au travers des autres la manifestation de l'amour ou son absence. Parce que l'apôtre Paul va plus loin quand il écrit à l'église de Corinthe. Et il dit, premièrement, l'amour est patient. L'amour est patient. Ça veut dire quoi? Que si j'aime, je suis patient. Qu'est-ce que c'est être patient? Qu'est-ce que c'est être patient? La patience, c'est quoi? La capacité à savoir attendre, n'est-ce pas? Mais en fait, ici, ça veut dire la personne qui supporte l'épreuve dans le calme. Ça veut dire que si tu es à côté de ton frère, et que tu dis à ton frère, fais telle chose, et que la personne, une fois ne l'a pas fait, deux fois ne l'a pas fait, la Bible dit, tu dois être patient avec la personne et continuer de croire qu'elle arrivera à le faire. Donc, tu supportes le fait que la personne n'arrive pas à faire ce que tu attends d'elle. Là, tu démontres la patience. L'amour est patient. Nous devons apprendre à être patients les uns envers les autres. Parce que chaque fois que vous manquez de patience, vous entrez dans la dimension du jugement. Et si tu juges, tu seras jugé. Alors que Dieu veut qu'on soit patient les uns envers les autres. Et vous savez que l'un des problèmes de l'Église, c'est que l'Église est restée dans la dimension de la loi et n'a pas compris la grâce. Parce que celui qui n'est pas patient envers son prochain exerce le jugement de la loi à son égard et non la grâce. Dieu t'a pardonné toutes tes fautes quand tu étais encore pleinement plongé dans le péché. tête et pieds dans la boue. Mais il dit, je te pardonne. Tu n'avais fait aucun effort. Tu n'as démontré aucune veille. Il était même à l'accepter quand il est mort à la croix pour ta vie. Il t'a aimé avant même que tu ne connaisses l'amour. Et donc, même maintenant, si envers ton semblable, tu manques de patience, tu es simplement en train de ne pas manifester l'amour parce que l'amour est patient. Donc, chacun d'entre nous devons examiner nos cœurs et voir si nous sommes patients envers les autres. Vous savez, pour ceux qui sont appelés au leadership, vous ne pouvez pas conduire les gens si vous n'êtes pas patient envers eux ou envers elles. Et même, je vais plus loin, pour ceux d'entre vous qui avez des gens sous vous, ne vous trompez pas. Si votre technicien de surface est technicien de surface et que vous êtes patron, c'est simplement que vous avez deux aptitudes et des aptitudes différentes. Tu ne peux pas attendre de celui qui est en bas d'avoir la même capacité que toi qui es en haut. Donc, traite avec elle en fonction de ses aptitudes. Et fais un effort pour aider cette personne à monter vers toi tout en étant patient. La patience est importante. Elle est très importante. Vous me comprenez? C'est important d'être patient les uns envers les autres. Savoir manifester la patience. Bien-aimés, pour ceux qui sont appelés au ministère, je veux vous dire, soyez patients. Même si quelqu'un commet le même péché pendant 5 ans, il faut être la dernière personne à douter que cette personne un jour sera délivrée. Pourquoi? Parce que l'amour est patient. La capacité à supporter l'épreuve que nous fait subir notre semblable tout en continuant de croire le meilleur de lui parce qu'on est imbibé par l'amour de Dieu. Voilà la patience. Savoir être patient. D'accord? Ensuite, en plus de la patience, l'amour est plein de bonté. Alors, lève ta main droite et dis, Seigneur, aide-moi, je veux être patient. Amen, amen. Aide-moi, je veux être patient. Amen. Si ton mari rentre à 2h du matin, dis, Seigneur, aide-moi, je veux être patient. C'est très important, même s'il continue de boire et dit, je veux être patient. Bien-aimé, vous devez apprendre la patience. La patience est importante et indispensable pour voir l'action de Dieu arriver à son terme et à sa perfection. Si vous n'êtes pas patient, vous ne verrez pas la plénitude de l'action divine. Vous voyez, c'est important parce que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quand je crois en Dieu pour quelque chose et que la chose tarde à arriver, j'attends parce que je crois que le Dieu que j'ai invoqué est capable de changer la situation. Laisse-moi te dire que tu ne dois pas être tellement patient pour attendre que Dieu te donne la voiture ou la maison qu'il t'a annoncée, mais tu dois être aussi patient pour croire que la personne qui est à côté de toi deviendra meilleure. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends? Dis à ton voisin, je crois que tu deviendras meilleur. Amen, je m'engage à être patient à ton égard. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. La patience. Être patient. Et je vais plus loin, bien-aimé. Sois patient envers toi-même. Est-ce que vous savez que le diable sait que chaque fois qu'on est impatient, on n'atteint jamais ses objectifs? Combien de personnes parmi vous, quand vous avez demandé quelque chose à Dieu par rapport à votre caractère et que vous avez recommis la même faute, vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Non, sois patient envers toi-même. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu finiras par être totalement affranchi de cette oppression. Je prophétise sur ta vie que tu vas y arriver. Tu manifesteras le caractère de Dieu. Tu vas y arriver. Tes projets marcheront. Tu vas y arriver. Alléluia! Sois patient envers toi-même. Souviens-toi quand tu n'avais que 5 mois, 6 mois, 7 mois et que tu as commencé à ramper et que même tes parents voulaient t'aider à marcher. Tu n'y arrivais pas. Tu faisais des efforts. Mais la patience et la continuité dans l'effort incessante t'ont amené à être là où tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu marches. Mais ça a été un processus. N'oublions jamais que les choses du royaume, on les obtient au travers d'un processus graduel qui peuvent demander souvent beaucoup de temps. Mais ce n'est pas parce que ça prend beaucoup de temps que ça ne viendra pas. Ça viendra certainement. Il faut être patient. La patience. Ceux qui ne sont pas patients tombent sur le coup, un, du jugement d'autrui, deux, de la culpabilité vis-à-vis d'eux-mêmes. Vous voyez, soit vous jugez vos semblables, soit vous vous sentez coupable. Un jour, Jésus, parlant de l'amour, va discuter avec ses disciples. Et un de ses disciples lui dit, mais combien de fois devrais-je donc pardonner à mon semblable. Quelle était la réponse de Jésus? Sept fois combien? 77 fois 7, ça fait combien de calcul mental? Ça fait combien? Qui a trouvé, lève la main et dit à haute voix. 7 fois 7, ça fait combien? 7 fois, et 7 fois 7, ça fait encore combien? Ah là, très bien. Maintenant, vous mettez 49 plus 7, ça fait 56, donc ça fait 569 fois par jour. C'est pas ça? Vous dites? 700? 500, oui, c'est ce que j'ai dit. Combien? 39 ou 69? 39? 539 fois par jour. Très bien. 539 fois par jour, pas par mois, mais par jour. Chaque jour a combien d'heures? Quand on divise 539 divisé par 24, ça fait combien? Ça fait combien? Qui a une calculette? Ça fait combien? Ça fait combien? 22,45 sur par heure. Donc ça veut dire par jour. Donc ça veut dire que non, 539 par jour divisé maintenant par 24, ça fait 22 par heure. D'accord? Ok, très bien. Par heure. Et chaque jour à combien d'heures? Très bien. Donc, ça veut dire chaque heure, je pardonne 22 fois. Environ, n'est-ce pas? Donc la personne vient, il commet une faute et puis il demande pardon. Tu dis, ok, ça va. Et puis il revient encore, dans la même heure, 22 fois la même faute. 22 fois, il demande pardon. Est-ce que tu vas encore pardonner? Amen. Mais Dieu dit que nous devons pardonner, n'est-ce pas, 22 fois ou alors 23 fois par heure. Chaque jour. Mais s'il demande aux hommes de pardonner 23 fois par heure chaque jour, ça veut dire que lui-même est capable de te pardonner combien de fois par heure par jour? Est-ce que vous savez que le pardon de Dieu devient suspensif quand tu cesses de croire qu'il te pardonne? Et qu'aussi longtemps que tu crois qu'il te pardonne, il te pardonne toujours. Parce que c'est une question de foi en la grâce. Car la grâce est accessible au travers de la foi. Si je ne crois pas que Dieu le fera, il ne le fera pas. D'accord? Donc, si je veux que Dieu me pardonne tous les jours, je dois pardonner à mes semblables tous les jours. Donc, on va faire un exercice à la fin de cette leçon. Tous les maris et les femmes qui sont ici, vous allez vous tourner ensemble et vous allez dire à ton mari, fais toutes les bêtises maintenant, je t'ai pardonné jusqu'à la fin de tes jours. Vous voyez? Donc, amen, vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, vous dites, je te pardonne. Et tous les amis, vous vous dites ensemble, je te pardonne. Tous les collègues, je te pardonne. Tu te tournes vers ton voisin, tu dis, quelle que soit la faute que tu feras, je t'ai pardonné jusqu'à la mort. Tu es pardonné d'avance. Le pardon est déjà pourvu. Alléluia. Amen. C'est fort, n'est-ce pas? Alors, vous savez, ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on ne ressent pas le mal de la faute que la personne a commise. Vous savez, on ressent le mal. Quand la personne commet une faute, ça fait mal. Mais ça devra faire mal parce qu'on aime. Ça ne doit pas faire mal parce qu'on est égoïste. Ça doit faire mal parce qu'on recherche le meilleur de la personne. Vous savez que vous pouvez juger quelqu'un de façon égoïste et juger quelqu'un par amour. Mais comment est-ce qu'il a osé me faire ça? Vous voyez? Ah, après, mes amis vont vous le voir en train de boire et on dira, mon mari boit. Là, tu es égoïste. Mais quand tu te dis, oh Seigneur, non, je ne veux pas envie que cet homme se détruise. Il y a un tel potentiel en lui. Il a un tel bon père qu'il faut que cette chose disparaisse. Alors tu investis ton amour pour que la personne devienne meilleure. Tu n'es pas en train de demander à la personne de se comporter d'une certaine façon parce que toi, tu vas obtenir le meilleur de la personne. Non, tu le demandes parce que tu veux que le meilleur de la personne paraisse et que l'œuvre de Dieu soit parfaite en elle. C'est ça le fait de véritablement aimer. D'accord? Aimer pour le meilleur de la personne et non pour soi. Quand Jésus est mort à la croix, il est d'abord mort à la croix parce qu'il voulait que nous soyons délivrés de nos péchés et que nous marchions dans le meilleur de plan de Dieu pour nos vies. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour ses amis, pour qu'ils deviennent meilleurs. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous vous rendez compte donc aujourd'hui, par exemple, la notion de jugement, de critique, les uns vis-à-vis des autres, découle du fait de ne pas marcher dans l'amour. Parce que quand tu aimes ton semblable, tu n'as pas un esprit de jugement, de critique, de murmure à son égard. Car ce que tu auras aimé que les hommes fassent pour toi, tu le fais d'abord pour eux, car c'est ça la loi et les prophètes. Qu'est-ce que tu aimes qu'on fasse pour toi? Fais-le pour ton semblable. D'accord? Il y a des gens qui vont te dire, oh, c'est mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est en août. Mon anniversaire, c'est en septembre. D'accord? Bon, ils te le disent, c'est en septembre parce qu'ils savent que vous êtes en août. Mais quand ton anniversaire était en février, ils ne sont pas souvenus qu'il y avait un anniversaire en février. Mais ils te rappellent quand même qu'ils veulent un cadeau en septembre. Donc si tu veux qu'on pense à toi le jour de ton anniversaire, pense aux autres le jour de leur anniversaire. Car ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour autrui. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? C'est très important. Donc, l'amour est patient. Amen. Lève encore ta main, tu dis, je suis patient. Après, la Bible dit, l'amour est plein de bonté. La bonté, c'est la disposition à être charitable, à être compatissant. Vous voyez, je suis compatissant, plein de bonté. Je suis charitable. Les gens qui sont pleins de bonté aiment donner spontanément. Pense au meilleur des autres. Quand quelqu'un est plein de bonté et qu'il arrive quelque part, il dit, ah, ça, ça aurait été bien pour telle personne. Une personne pleine de bonté n'est pas égoïste. Une personne pleine de bonté est compatissante. Quand la femme adultère a été arrêtée, malheureusement, les gens qui étaient pleins de bonté n'étaient pas là. Ils étaient dans leur maison. Mais toutes les personnes qui n'étaient pas pleines de bonté étaient sorties pour la lapider. N'oubliez jamais que les gens qui s'attaquent à vous sont ceux qui demandent qu'eux-mêmes sont extrêmement mauvais. D'accord? C'est pas tout Israël qui était sorti. Non. Il y a des gens qui étaient chez eux. Ils étaient tellement pleins de bonté qu'ils n'ont pas voulu participer à la méchanceté de la loi. Est-ce que vous savez que les hommes eux-mêmes savaient que la loi était cruelle? Est-ce que vous le savez? Que la loi était cruelle quelque part. Parce que la loi disait, si on trouve une femme en adultère, qu'est-ce qu'on fait d'elle? On fait quoi de cette femme? On la lapide. Est-ce que la loi était dans l'amour? Est-ce qu'il y avait l'amour dans la loi? Non. L'amour n'était pas dans la loi. Ça veut dire que je peux être correct sans marcher dans l'amour. Si vous voulez être profond, prenez ça. Je peux obéir à la loi sans amour. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a une catégorie d'enfants de Dieu qui vont toujours vous rappeler que moi je suis correct, je ne vais pas en boire de nuit, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je paye ma dîme, je dors. Mais quand vous regardez leur visage, le visage est sec comme un arbre qui n'a pas de sève. Ils sont toujours, vous voyez, très prompts à la critique. En fait, ce sont les églises qui ont bâti leur fondement sur l'obéissance à la loi et qui ne connaissent pas la grâce, l'amour, le pardon, la bonté. Jésus était plein de bonté. Vous ne pardonnez pas à un pécheur parce que vous êtes pécheur. Vous pardonnez à un pécheur parce que vous aimez la personne. Quand Jésus a pardonné à la femme adultère, il n'a jamais commis l'adultère. Est-ce que vous me comprenez? Donc ne dites pas oui, oh, ces prédicateurs, ils prêchent le pardon parce que non. Vous parlez de l'amour parce que vous êtes rempli d'amour. Celui qui ne pardonne pas ne connaît pas l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, ton pasteur ne t'a pas donné un permis de conduire pour le péché. Voilà. C'est pas ce que je suis en train de faire. Non. Je suis simplement en train de te dire qu'à cause de la dimension de l'amour que tu as, il faut être rempli de bonté envers les autres. Et je vais vous dire que quand la bonté est en action, généralement, les personnes qui subissent la bonté finissent par être gagnées. Car l'amour a toujours la victoire et jamais la défaite. Jamais. D'accord? Jamais. Pourquoi est-ce que vous voyez, par exemple, les enfants de pasteurs de l'époque, la majorité d'enfants de pasteurs n'aiment plus aller à l'église, n'aimaient pas aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné la loi. On a enseigné la loi. Et souvent, on oublie que nous qui avons été sauvés, nous avons été en Égypte. Vous avez demandé à quelqu'un de miser sur ma vie quand j'avais 19 ans, il vous dirait que ce gars-là, il allait être patron en enfer. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que, vous voyez, rien de ce qui était visible ne laissait présager que j'étais un homme de Dieu. Mais Dieu, dans son infinie bonté et dans sa préséance, avait écrit dans son livre qu'à l'âge de 23 ans, j'allais le rencontrer. Donc, les hommes qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu et le plan, les desseins arrêtés de Dieu en ce qui concerne la destinée des hommes, pouvaient apporter un jugement. Alors que Dieu, qui est omniscient, savait que cet homme allait être utile pour mon œuvre. C'est pour ça que souvent, vous avez l'impression que Dieu, avec certaines personnes, semble ne pas être aussi dur qu'avec d'autres. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le calendrier, l'horloge prophétique qu'il a pour chacune des vies. Il connaît bien l'horloge prophétique pour chaque personne. Donc, soyons remplis de bonté. Donc, nous devons des personnes remplies de bonté. Lève ta main droite et dis, Seigneur, aide-moi à être bon. Comme mon Père céleste est bon. Je veux marcher dans la bonté de Dieu. Ouais, la Bible dit aussi que l'amour n'est point envieux. Donc, vous savez, quand on a l'amour, on n'est pas envieux. Qu'est-ce que c'est envier? C'est avoir une convoitise mêlée d'une profonde jalousie. Vous voyez, les gens qui sont envieux, ce sont des personnes qui convoitent, et ce n'est pas une simple convoitise, c'est une convoitise accompagnée de jalousie. Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà vu, vous êtes ami à quelqu'un, et puis soudainement, la personne n'a plus envie d'être votre ami, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais c'est que vous avez été béni la semaine passée et la personne n'a plus envie d'être marché avec vous. Et c'est clair, la personne commence à te voir et puis elle est jalouse. Pourquoi? C'est là, la personne est envieuse. Elle est envieuse. Vous savez que les gens vous aimeraient parfaitement. Si Dieu vous laissait constamment dans le désert, vous aurez beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis, c'est-à-dire que même dans votre famille, on allait vous aimer bien. Les gens allaient être corrects avec toi et tout le monde, ok? Mais dès que Dieu commence à t'élever, dès qu'il commence à te combler de grâce, comme ça va arriver dans ta vie dans les jours à venir, amen. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à te critiquer. Mais c'est par envie. C'est par envie. Les personnes envieuses n'aiment pas avoir à leur côté les personnes qui sont plus bénies qu'elles. Jamais. Vous avez déjà vu ce genre de personnes-là? Il y a une catégorie de femmes, vous les voyez, elles, quand vous voyez les filles, les copines qu'elles choisissent, vous-même vous comprenez qu'elles n'ont pas envie qu'on complimente une autre à côté d'elles. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que, vous les voyez, ils vont acheter leur sac à Adjamé, vous voyez là, très tôt le matin, à 4h, 5h du matin. D'accord. Et donc, elle préfère avoir des copines qui sortent fraîchement du village et qui n'ont pas de sac. Donc, les copines s'assemblent à la maison, elles commencent à monter le sac. Ah, t'as vu tel sac? Mais dès qu'une autre femme entre, elle qui allait prendre pour elle dans les Champs-Élysées, son visage se tord. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas avoir quelqu'un d'autre qui la dépasse. Bien-aimé, il faut accepter que quelqu'un d'autre t'a dépassé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pas un problème. D'accord. D'ailleurs, la preuve de la fidélité de Dieu se démontre aussi au travers de ton semblable. N'oublie pas que quand on dit que Dieu est bon, il n'est pas bon seulement pour toi. Il est aussi bon pour ton voisin. Donc le témoignage de ton voisin illustre bien la bonté de ton Dieu. Donc tu devais apprendre à te réjouir. Amen. De ce que Dieu fait. Amen. De ceux qui sont tout autour. Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'est arrivé à moi personnellement. Vous savez, je sais que Dieu m'a donné la grâce d'enseigner et de prêcher. Eh bien, une saison, quand j'assistais à des conventions et qu'un orateur prêchait et qu'on l'acclamait, j'avais le cœur qui était un peu serré. Parce que je voulais être la personne qu'on acclame le plus. Ça m'est arrivé personnellement. Un jour, je suis allé régler ça avec Dieu. Et j'ai dit, c'est pas normal. Je ne peux ne pas apprécier ce que Dieu est en train de faire avec les autres. Et je me rendais compte que chaque fois que je le faisais et que je prenais la parole après, je ne coulais pas dans l'onction. Donc l'onction de ces gars. Et puis, je rentrais, j'étais déçu. Pourquoi? Pas déçu parce que je n'ai pas touché les cœurs, mais déçu parce que je n'ai pas été le plus grand prédicateur. Et quand je suis allé devant Dieu, il m'a dit, je ne bénis jamais la compétition. Donc j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, oh, je veux que ça sorte de mon cœur. Je n'ai pas envie d'être envieux, pas du tout. Mais il faut que j'apprenne à apprécier ce que Dieu fait avec les autres. Alors, ce que j'ai fait, c'est que chaque fois que quelqu'un prêchait bien, je venais après, je lui donnais une offrande. Parce que je voulais être délivré d'un cœur qui n'est pas correct. Un homme de Dieu ne doit pas être jaloux de quelqu'un d'autre. Et j'avais la jalousie dans mon cœur. J'ai commencé à semer des offrandes, à apprécier la personne, à l'appeler, à dire « Oh, c'était fantastique !» Et puis un jour, ça a disparu de mon cœur. Vous voyez? Et quand ça a disparu de mon cœur, mon onction a augmenté. Donc aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui prêche et qui dit que « Alléluia !» Je suis content. Vous voyez? Mais c'est aussi vrai que quand je vois quelqu'un qui vient prendre la parole avec un esprit de serpent dans le but de manipuler le peuple, alors je m'attriste. Parce que l'amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Vous comprenez? Je ne peux pas être heureux de voir quelqu'un manipuler le peuple, venir en vêtement de loup, alors que de brebis, alors que c'est un loup. Tout de suite, je serai mal à l'aise. Vous voyez? Donc, Dieu est à l'aise quand nous sommes mal à l'aise pour les choses qui ne sont pas correctes. Mais nous devons apprendre à être à l'aise pour les choses qui sont correctes. Ne pas être envieux. Lève ta main droite et dis, Seigneur, délivre-moi, je ne veux pas être envieux. Bénis mon voisin de droite, bénis-le, bénis-la, comble-le, comble-la, Seigneur. Je me réjouirai de son élévation. Oh, déclare-le, je veux me réjouir de ce que tu feras avec mon voisin. Déclare-le de tout ton cœur. Touche ton voisin à côté, dis que Dieu t'arrose, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. Je serai heureux de voir Dieu te combler. Alléluia. Voyez, donc, l'amour n'est pas envieux. Ensuite, l'amour ne se vante point. Ah, ça, c'est quelque chose de fort. L'amour ne se vante point. Bien-aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Je veux vous parler avec mon cœur ce soir. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez que, au départ, bien-aimé, moi-même, je pensais, oh, je suis un grand homme de foi. Jusqu'à ce que je découvre Dieu, je découvre la parole de Dieu, et je me rends compte que, honnêtement, que ce soit la foi, que ce soit par la prière, que ce soit par le jeûne, ou que ce soit par n'importe quoi, ou même par le sommeil, parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent simplement parce que tu as dormi, pas parce que tu as prié. Et tout d'un coup, ça vient. Quand il dit, j'ordonne la bénédiction d'être avec toi, c'est pas que tu as fait quelque chose. Tu t'es couché et puis c'est simplement venu, tu lèves le matin, tu découvres là dehors. Allez demander aux enfants d'Israël. Quand ils se levaient le matin, ils trouvaient que la manne était descendue, c'était par terre. Donc, Dieu fait des choses même quand on dort. Et souvent, notre chair a tendance à prendre le crédit de ce que Dieu a fait. Vous savez, mais je vais vous dire une chose. Vous devez apprendre à ne pas vous vanter. Quand Dieu vous a donné d'avoir quelque chose, je vous garantis, faites un effort de ne pas être défiguré par la bénédiction divine. Que la bénédiction ne vienne pas voler l'amour dans ton cœur. Vous voyez? Donc, ne soyez pas le type de personne. Vous avez déjà vu ce genre de personne qui roule une voiture. Et puis, dès que quelqu'un passe à côté de lui, et puis la personne essaye de faire une mauvaise manœuvre, la personne insulte, vous demandez, oh là, souvent vous êtes dans la voiture, vous tremblez, vous dites, mais vous ne pouvez pas être simplement chrétien le dimanche, bien-aimé, ou à l'église. Votre caractère de Dieu, l'amour de Dieu dans vos cœurs doit se manifester tous les jours, même hors de l'église. Vous ne pouvez pas être là et vous êtes enfant de Dieu. Et on entend vos cris au quartier, c'est vous qui êtes toujours en train d'insulter votre femme ou votre mari. Ça, c'est un problème. Ou de répondre farouchement à vos voisins. Non, bien-aimés, faites attention. Si on demandait à vos servantes de maison de témoigner, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous ne viendrez pas dimanche. Parce que vous demandez à vos servantes d'être debout à 3h du matin alors que vous-même vous réveillez à 9h. Vous savez, vous devez faire très attention sur votre manière de traiter la personne que vous avez en face. Comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis des autres? Vous savez, je suis très regardant là-dessus. Tous ceux qui marchent avec moi, ils le savent. Que ce soit le gars qui est au bord de la route, que ce soit la personne que je trouve à la caisse ou au secrétariat, je vous garantis 100% de respect, sans jamais se vanter de ce que Dieu t'a donné, parce que ce n'est qu'une pure grâce. Nous avons vu des hommes élevés. Ofoué Boigny est mort, bien-aimé. Sélassié est mort. Des hommes élevés, des hommes qu'on n'imaginait même pas qu'ils étaient hommes, ils sont morts. Je veux prophétiser sur ta vie, tu mourras aussi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Moi aussi je vais mourir. Donc, si tu ne croyais pas, je prophétise. Donc, comme ça, ça devient une réalité évidente. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on finit tous par quitter la terre. Et comme je parlais à deux jeunes gens dans mon bureau ce matin, vous prenez l'argent, vous mettez à côté de vous, vous mettez la voiture à côté de vous, vous tombez par terre là. Maintenant, je vous garantis que la voiture nous amène par l'hôpital. Vous mettez l'argent à côté, les chéquiers, tout ça, vous tombez, vous avez une crise cardiaque, les chéquiers vous regardent. Et même plus grave, si vous ne faites pas attention, les gens passent, ils ramassent les chéquiers et l'argent, ils vous laissent. Je vous dis, je vous garantis, si on vous dépouillait de votre position, est-ce que les gens qui vous entourent allaient toujours vous respecter? Si aujourd'hui, on dit, bon, pendant 24 heures, celui qui est en bas devient ton patron, qu'est-ce qu'il allait faire de toi? On dit, tu as la capacité même de leur envoyer la société. Qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce qu'il allait dire, non, je me souviens du bien-être que cette personne me fait tous les jours. Soyez respectueux. Vous trouvez quelqu'un, bonjour, comment tu vas? Tu as bien dormi? Oui. Ça ne change rien à ce que vous êtes. Souvenez-vous que vous êtes dans votre chambre et souvent elle n'est pas propre. Le Saint-Esprit descend là-bas te rencontrer. Dieu vient à ta rencontre parce qu'il t'aime. Pas parce que tu es spécial, mais parce qu'il est spécial. Chaque fois que vous aimez les gens, ça vous rend spécial. Ne l'oubliez jamais. Ça vous rend spécial. Marchez dans l'amour véritable. Vous me comprenez? Il n'y a aucun de mes voisins, je dis bien aucun de mes voisins qui vous dira ce gars a un problème avec nous. On dit cotisation, je paye le premier. Jamais en retard. Que ce soit, ne soyez pas des personnes au nom de la foi, vous êtes toujours en train d'être difficile. Non, non, manifestez l'amour de Dieu. Vous comprenez? Et parce que vous êtes enfant de Dieu, si un moment dit cotisation 10 000 et qu'il y a une fête dans votre quartier, contribuez parce que vous aimez les gens de votre quartier. Je contribue tous les fois, mais je n'y vais jamais. Mais ils comprennent que je ne peux pas être là parce que j'ai d'autres occupations. Mais ce n'est pas pour autant que je ne contribue pas. Parce que, vous savez, nos messages parlent trop faiblement par rapport à nos actions. Nos messages révèlent notre amour, mais nos actions démontrent notre amour. Nous devons arriver à la phase de la démonstration de l'amour que nous avons vis-à-vis de nos semblables. D'accord? Donc c'est important. C'est un caractère qu'on doit développer et cultiver chacun d'entre nous dans son cœur. Vous voyez? Donc il ne faut pas se vanter. D'accord? C'est vrai qu'il faut, on est fiers d'être enfant de Dieu. Alléluia! On est béni d'avoir été élevé par le Seigneur. Mais chaque fois que l'opportunité se présente, manifestez le caractère de l'humilité. L'humilité. Soyez humble. Soyez très humble. Soyez humble dans vos cœurs. Cultivez l'humilité. D'accord? C'est très important. L'humilité ne veut pas dire que vous amenez maintenant les gens de la maison dormir sur votre lit dans la chambre. Non, chaque chose est à sa place. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous gardez l'humilité. Parce que vous ne savez jamais comment est-ce que quelqu'un qui peut paraître insignifiant vous sauvera la vie demain. Je vous garantis. Pour vous sauver la vie. Sauver la vie. Parce que vous avez été correct. Soyez des personnes bien avec les gens. C'est ça l'amour. Il faut être des personnes bien avec les gens. Donc, tu ne te vantes point. Tu ne t'en fais point d'orgueil. Tu ne fais rien de malhonnête. Oui. Chaque fois que vous opérez dans la malhonnêteté, vous n'êtes pas en train de marcher dans l'amour. L'amour n'est pas malhonnête. Et c'est pour ça que je dis que pour les commerçants ou commerçantes, d'accord, la malhonnêteté n'est jamais une vertu du royaume. La malhonnêteté n'amène pas la prospérité. Elle peut apporter la richesse, mais jamais la prospérité. Elle peut amener l'abondance de biens, mais jamais la faveur de Dieu. Donc, la malhonnêteté n'est jamais le fondement d'une bénédiction que Dieu apporte. Non, il faut être honnête. Alors, je n'ai pas dit, quand quelqu'un vient te dire, OK, d'accord, tu as acheté cette chemise à combien? Tu me la vends à peut-être à 100 000. Tu n'es pas obligé de donner ton prix d'achat à la personne, mais tu n'es pas obligé non plus de mentir. En disant, non, non, tu sais, je te la vends à 15 000, je l'ai acheté à 10 000. Tu n'es pas obligé de dire à combien tu as acheté. Si tu as acheté à 5 000, ne dis pas que tu as acheté à 10 000. Tu n'es pas obligé de mentir gratuitement. Vous comprenez? Tu peux simplement dire à la personne, je suis un commerçant. Si je te révèle mon prix d'achat, je ne suis plus en train de faire le commerce. Ça montre que tu as du caractère. Tu n'as pas besoin de révéler un faux prix pour impressionner. La malhonnêteté. Il ne faut pas être malhonnête. Si tu viens demander l'argent à quelqu'un et tu sais que tu ne rendras pas dans un mois, ne dis pas dans un mois, je viens te donner. Ça, je te jure. Non, 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 non. Il ne faut pas faire ça. Non. Non, non, non. Il faut être correct. Correct. Il ne faut pas être malhonnête. Et il peut arriver que tu as des problèmes en chemin. Va vers la personne et dis à la personne, j'ai eu un problème. Je m'excuse. Je ne peux pas tenir parole. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'autre. Vous devez tellement aimer vos semblables que mettre mal à l'aise votre prochain vous met vous-même mal à l'aise. Comment arrivez-vous à dormir alors que vous savez que vous avez pris quelque chose de quelqu'un et vous êtes en train de zigzaguer pour ne pas lui remettre? Je disais à quelqu'un que la raison pour laquelle je crois que Dieu n'a pas voulu que je traite des affaires avec des gens d'église, c'est parce que vous voyez, quand je parle comme ça, et si j'avais traité un business avec quelqu'un et qui me levait de l'argent, il va dire, c'est peut-être parce que je dois au révérend qu'il parle de ça. Non, je vous parle de l'amour et de l'honnêteté. Je n'ai jamais dû un seul mois de loyer quand j'étais locataire. J'ai été locataire pendant, Dieu seul sait pendant combien d'années. J'ai touché 15 000 francs CFA, je payais 90 000 francs de loyer par mois. Je n'ai jamais dû un seul mois de retard. Et il y a des mois où je prenais du pain et du sucre, où je prenais du tapioca avec des arachides grillées et je mettais un peu de lait et je mangeais la journée, ça me suffisait. Et je payais le loyer. Je n'ai jamais pris une chemise de quelqu'un à crédit pour dire, viens demain, je te paye. Parce que je sais une chose, je n'ai pas quatre bras. Donc si j'ai une seule chemise et que Dieu me l'a donnée, gloire à Dieu pour ça. Je n'ai pas allé prendre les chaussures de quelqu'un pour dire, je vais te payer alors que je sais que ce n'est pas mon niveau. Je ne vis jamais comme ça. Ça, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai appris ça. J'ai appris ça depuis longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans la Bible qu'on ne doit pas être malhonnête. Vous me comprenez? C'est ça. Je marche derrière toi, ton argent tombe. Je me dis, hey, s'il te plaît, t'oublie ton argent. Tiens, voilà ça. C'est pas Dieu m'a béni, alléluia. Non, c'est pas Dieu m'a béni. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, non, non. Non, 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 non. C'est pas Dieu m'a béni. Non. Je récupère, je te remets. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, cultivez l'honnêteté. Soyez honnête envers les autres. Soyez des personnes honnêtes. On a besoin de personnes de valeur. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée parce qu'elles ne sont pas honnêtes et intègres? Bien-aimé, si tu étais honnête, penses-tu que tu manquerais quelque chose? Je dis non. Les gens honnêtes ne manquent de rien. Il y a des gens, je vous dis, parce que je suis à ce niveau, je vois des gens qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent et qui veulent aider des gens, mais en fait, parce qu'il y a tellement de personnes malhonnêtes que finalement, ils n'aident personne. Mais quand vous avez cultivé l'honnêteté, que vous êtes quelqu'un, on sait que vous êtes honnête. Moi, j'ai vu quelqu'un me donner près de 300 millions pour dire, garde, et puis tu me remets après. Mais si tu étais malhonnête, il ne remettrait pas, il ne te dira pas, garde mon argent et tu me donnes après. Mais parce que d'autres personnes t'ont dit, le lendemain, il a déménagé, c'est terminé. Il n'est même plus habitué, il est parti. Mais c'est avoir une mauvaise révélation de qui tu es. Ta destinée ne peut pas être rattachée à un montant, quel que soit le montant. Tu ne vaux plus que l'argent. Tu ne peux pas disparaître à cause d'un bien. Non. Non, 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 non. Non. Et puis, chaque fois que Dieu te donne d'avoir accès à un palier, n'oublie jamais qu'il y a un palier supérieur. Et que à ce palier, passe le test pour aller au niveau plus élevé. Il ne faut rien faire de malhonnête. Paye ta vignette. D'accord? Parce que ce n'est pas toi qui vas être au bord de la route et puis en train de négocier. Alors qu'en fait, hier, la chaussure que tu as achetée pouvait payer ta vignette. Sois honnête. Paye tes impôts. Ne fais rien de malhonnête. Il faut être honnête et intègre. C'est important. Et puis, ne recherche pas toujours ton propre intérêt. Parce que vous savez, dans nos relations avec les gens, ne recherchez pas toujours vos propres intérêts. D'ailleurs, les plus grands leaders sont ceux qui ont démontré à ceux qui les suivent qu'ils les conduisaient pour leur bien. Chaque fois que vous êtes avec les gens et que les gens se rendent compte que vous êtes là parce que vous avez besoin de prendre ce qu'ils ont, ils ne vous suivent plus. Les gens vous suivent parce qu'ils savent que vous êtes en train de rechercher leurs intérêts. Vous comprenez? Et c'est la même chose partout. Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? Parce qu'on sait que il cherche nos intérêts. D'ailleurs, il nous l'a prouvé. Oh non, bon, je suis pasteur. Je ne comprends pas, les gens viennent à l'église. Et puis 3 mois après, ils sont tous partis. Oui, mais attends. Si les gars viennent à l'église, et quand tu salues quelqu'un, viens un peu. Tu salues. La réaction que tu as, c'est que quand tu salues la personne, tu regardes plus d'abord à la poche. Est-ce qu'il y a quelque chose en poche? Vous voyez? Je vous donne un exemple. Moi, je connais un homme bien, un homme de Dieu très bien. Donc, je tirais le nom. Mais chaque fois que je le voyais, j'avais pris l'habitude de faire une offrande. Donc, je faisais une offrande. Donc, finalement, je me suis rendu compte, un jour, je me suis venu, et puis, je n'ai pas fait l'offrande. Et je me suis rendu compte que quand on s'est séparé, son visage s'est froissé. Donc, pour lui, quand il me voyait, il ne pensait qu'à l'offrande. Et je vais vous dire que j'ai arrêté de lui faire l'offrande. Parce que j'ai dit, mon ami, je t'ai donné l'offrande, mais je ne te devais rien. Ce n'était pas une dette. Est-ce que vous me comprenez? Je connais quelqu'un d'autre à qui on a donné une offrande de 50 000, il a jeté par terre. Vous dites, quoi? Moi, tu donnes 50 000, ça va dans ta... Je l'ai amené à côté, j'ai dit, Joe, la dame ne te doit rien. Mais c'est choquant. Et on était ensemble, donc quand ils nous voient ensemble, ils disent, voilà ce qu'ils font. Mais moi-même, tu me donnes 500, je m'arrête. Je m'arrête et puis je prends les 500. Je dis, oh Seigneur, je te loue. Merci pour ces 500 francs, oh Dieu. Je te rends grâce. Bénis sa vie, comble-le. Pourquoi? Parce que si la personne te l'a donné, la personne te donne parce que derrière toi, elle voit Dieu. Et Dieu ne refuse même pas la simple pièce qu'on va lui apporter. Donc, tu rends grâce à Dieu pour sa vie. Et tu bénis la personne de t'avoir donné ce qu'elle a pu te donner. Vous comprenez? Donc vous ne cherchez pas votre intérêt, vous cherchez l'intérêt de la personne qui vient se connecter à ton onction par ce qu'elle a. Appréciez les cadeaux qu'on vous donne. La personne t'a donné parce que la personne a eu envie de te donner. Ça ne veut pas dire que tu vas obligatoirement porter ce qu'elle te donne, mais apprécie ce qu'on te donne. En disant merci. La courtoisie, merci beaucoup. Quelqu'un te fait un présent, quand il rentre chez lui, tu appelles, tu dis, ah, j'ai été touché. Merci, c'est la courtoisie. Tu as voyagé, quelqu'un t'a reçu, tu arrives chez toi, tu appelles, ah, j'ai très bien voyagé, merci, merci de m'avoir accompagné à l'aéroport. Personne ne te doit rien. Ça montre que tu ne recherches pas seulement ton intérêt, mais tu apprécies ce que les gens font pour toi. Vous voyez? Ça, c'est important. C'est très important. Donc, enfin, il faut le comprendre, bien-aimé. Et la Bible dit que l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Quel que soit ce que quelqu'un a fait, on excuse. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Supporte tout. L'amour supporte tout. Bien-aimé, c'est triste, hein? J'ai vu des personnes que Dieu utilise. J'ai côtoyé des gens avec des dons extraordinaires et magnifiques. Mais dès qu'ils quittent le pupitre, il n'y a plus rien de Dieu. Vous vous demandez, mais est-ce la personne qui était utilisée tant hier? Parce que je vais vous dire, après tout ce que Dieu peut faire par nous, ce qui reste vraiment, c'est l'amour de Dieu. Quand on l'a perdu, quand on ne l'a pas, on n'a rien et on n'a rien. Combien de personnes ont été étonnées? Ah ouais, tu vois, ok, j'arrive, je viens chez toi, je vais venir prier pour toi, il n'y a pas de problème. Ah d'accord, ok, c'est au bureau lundi, je vais te recevoir. Pourquoi? Parce que tout se fait par amour. Ah, révérend, non, à ton niveau, je ne veux pas imaginer, non. Il n'y a pas de niveau qui soit. Le niveau le plus élevé, c'est Dieu qui l'a. Il nous a donné l'exemple. Lui qui était Dieu, il n'a point daigné marcher d'égal à Dieu. Il s'est dépouillé de sa condition en devenant semblable aux hommes. Il était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Donc, chaque fois que nous sommes sur la terre, souvenons-nous que plus grand que nous a vécu parmi nous, avant nous. Et à montrer l'exemple de ce que c'est la marche dans l'amour. Et marchons dans l'amour de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut aussi apprendre à t'aimer toi-même, bien-aimé. Ne détruis pas ta vie avec les drogues, avec toutes espèces de choses. Aime ton prochain comme toi-même. Marche dans l'amour. Et je vais te garantir que si tu marches dans l'amour, La faveur de l'Éternel que tu auras sur ta vie sera incroyable. Je vous garantis que depuis que j'ai fait le choix de l'amour, j'ai connu une accélération incroyable dans tous les domaines de ma vie. Je dis bien dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine où je n'ai pas vu la main de Dieu de façon incroyable. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de marcher dans l'amour. L'amour va te donner d'être exaucé pendant que beaucoup de personnes seront encore en train de gémir. Dieu t'exaucera. L'amour va te donner de trouver une réponse là où beaucoup de personnes n'ont pas de réponse. L'amour de Dieu va te connecter au trône de la grâce, au cœur de Dieu. L'amour de Dieu donnera au don qu'il y a dans ta vie de se manifester de façon incroyable. L'amour de Dieu va provoquer l'élévation sur ta vie et une attraction des personnes autour de toi. Parce que quand les gens ressentent l'amour, ils sont attirés. Voyez? Parce qu'il y a de l'amour. Lève ta main droite comme ça devant le trône de l'Éternel et commence à prier pour ta propre vie. Prie pour toi-même ce soir. Prie vraiment pour ton propre cœur. Demande à Dieu de toute ton âme. Alors dis à Dieu que tu veux marcher, marcher par l'amour. Véritable. Dis au Seigneur que tu as envie d'être une personne patiente. Une personne pleine de bonté. Une personne qui n'en vit pas. Une personne qui ne se vante pas. Une personne qui supporte tout, qui croit tout. Qui ne fait rien de malhonnête. Oh, demande au Seigneur, dis-lui de t'aider à marcher dans cet amour véritable. À exprimer l'amour et à démontrer l'amour à ton semblable. Car il est écrit dans sa parole que nous, si nous disons Dieu, que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas et que nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons, alors l'amour de Dieu n'est pas en nous. Prie le Seigneur afin de marcher dans cet amour, de marcher selon l'amour que le Saint-Esprit a répandu dans ton cœur. Prie et demande à Dieu de toute ton âme, demande-le à Dieu de toute ton être. Prie devant le trône de l'Éternel.